Là, est-ce que je suis bien positionnée là? C'est, vous m'entendez? Bon, bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Comme Jean-Marc l'a dit, je suis aumônier de prison et je suis aumônier régional. Ça veut dire que j'ai la responsabilité de l'aumônerie protestante dans toute la région du Grand Ouest. Mais je vous en parlerai un peu plus tard. D'abord, j'aimerais bien qu'on lise deux textes dans la Bible ensemble. Mais avant de faire cela, j'aimerais qu'on puisse prier que Dieu parle à nos cœurs. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu es notre Dieu vivant. Tu es notre Père qui aime parler à ses enfants. Et nous te prions, alors que nous lisons les Écritures, que tu nous aides à avoir le cœur ouvert afin que nous puissions entendre et comprendre ta parole. Nous te prions, alors que nous comprenons ta parole, que tu nous aides à croire. Et alors que nous croyons, que tu nous aides à la mettre en pratique en cherchant ta gloire dans tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et donc, je vous invite à deux lectures. La première dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse, et je vais lire le chapitre 18, et je vais lire les 8 premiers versets. Genèse, chapitre 18, verset 1er. L'Éternel apparut à Abraham au chêne de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente, se prosterna en terre et dit « Seigneur, si je peux obtenir cette faveur de ta part, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Qu'on apporte donc un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre, j'irai prendre un morceau de pain pour vous réconforter, après quoi vous passerez votre chemin. Ainsi, vous ne serez pas passé en vain chez votre serviteur. » Ils répondirent, « Oui, fais comme tu l'as dit. » Abraham alla vite dans sa tente vers Sarah et dit, « Vite, trois mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. » Abraham courut vers le bétail, prit un veau tendre et bon et le donna à un jeune serviteur qui l'apprêta vite. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Et ensuite, une lecture dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 13, et je vais lire les trois premiers versets. Hébreux 13, verset 1er. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns, à leur insu, ont logé des anges. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez en prison avec eux et de ceux qui sont maltraités comme étant vous aussi dans un corps. Alors, comme c'est souvent le cas, avec beaucoup des épîtres dans le Nouveau Testament, le dernier chapitre comporte un certain nombre de recommandations et de salutations. À première vue, on pourrait avoir l'impression, comme le dirait mon mari David, que cela ressemble plutôt à une liste à la Prévert. On peut penser que ça saute du coq à l'âne. Je n'ai pas lu tout le chapitre. J'ai lu que trois versets, mais si vous lisez la suite, vous verrez que ça parle de plusieurs choses qui nous semblent différentes. Le rapport entre ces différentes choses n'est pas forcément évident tout de suite. Mais Si on regarde la fin du chapitre précédent, on y trouve une exhortation à être reconnaissant et à exprimer cette reconnaissance envers Dieu en le servant d'une manière qui lui plaise. Chapitre 12, verset 28. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et crainte. Ou dans d'autres traductions plus modernes, manifestons cette reconnaissance en servant Dieu d'une manière qui lui soit agréable avec respect et crainte. En fait, c'est un peu le contraire du texte que Jean-Marc a lu en début de culte, tiré d'Ésaïe chapitre 1er, qui disait quel genre de culte il ne fallait pas rendre à Dieu. Là, il dit le culte qu'il faut rendre à Dieu, la façon de servir Dieu, c'est avec respect et crainte pour manifester notre reconnaissance parce que nous nous rendons compte que nous recevons un royaume inébranlable. Et il me semble donc que les recommandations listées juste après dans le chapitre 13, parce que les divisions de chapitres ont été rajoutées par la suite, pas au moment de la rédaction de l'Épître, ce sont des exemples concrets, des exemples pratiques de comment nous pouvons servir Dieu de manière à lui exprimer notre reconnaissance d'une façon qui lui plaise. Dans les trois premiers versets de ce chapitre, les versets que nous avons lus, il est question d'amour fraternel. Il est dit « persévérer dans l'amour fraternel » ou dans la traduction Nouvelle Français Courant, « continuer à vous aimer les uns les autres comme des frères et sœurs, comme des frères et sœurs chrétiens » dans la version Parole de vie. Il y a l'idée de partage et de solidarité entre des personnes qui sont liées entre elles, les membres d'une famille, par exemple, ou ici, les membres d'une famille spirituelle. Et il y a l'idée que ce n'est pas forcément facile tout le temps, parce que le mot « persévérer » suggère que c'est quelque chose qu'on pourrait abandonner, on pourrait se fatiguer, on pourrait se dire « cela ne vaut plus la peine ». Mais on nous encourage à persévérer. Si je persévère à faire quelque chose, par définition, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours évident. Parfois, je n'y arrive pas, mais j'y reviens. Quand j'entends ce mot « persévérer », cela me rappelle toujours ma grand-mère. Ma grand-mère qui est décédée déjà maintenant depuis de nombreuses années, à l'âge de 99 ans. Mais quand j'étais petite, si je n'arrivais pas à faire quelque chose, elle disait « essaye, essaye, essaye encore ». Et elle racontait l'histoire d'un roi d'Écosse, le roi Robert Bruce, qui était roi en Écosse au XIVe siècle, qui était exilé à un moment sur une île, l'île de l'Artlan. Et il s'est réfugié dans une grotte, dans une caverne. Et il voyait une araignée qui essayait de tirer un fil pour pouvoir faire sa toile. Mais à chaque fois, le fil cassait. Et l'araignée a recommencé, et il est dit dans la légende, un peu dans la tradition, qu'il a réessayé 7 fois avant de réussir à tirer son fil et que ça tienne pour qu'il puisse faire sa toile. Et moi, je me demande, est-ce que je suis prête à recommencer quelque chose 7 fois pour pouvoir réussir? Mais ce mot « persévérer », il m'encourage à faire cela. Que quand je n'y arrive pas, j'essaye et je réessaye jusqu'à ce que j'y arrive. Vivre l'amour fraternel, cela suppose, bien évidemment, que nous reconnaissions ceux et celles qui sont nos frères et sœurs en tant que tels. On dit souvent, ou j'entends souvent, qu'on choisit ses amis, mais on ne choisit pas ses frères et sœurs. Et là, je ne sais pas si c'est un scoop, mais on ne choisit pas non plus ses frères et sœurs chrétiens. On ne choisit pas nos frères et sœurs dans le Seigneur. C'est lui qui nous a choisis. On ne choisit pas ceux qui sont nos frères et sœurs. Et il est donc important pour nous, si nous allons persévérer dans cet amour fraternel, de discerner nos frères et sœurs en Christ, de les reconnaître en tant que tels. Et pour ça, je dois aussi me reconnaître pour qui je suis vis-à-vis d'eux, comme frère ou sœur, faisant partie de la même fratrie spirituelle, mais aussi au même rang dans la famille de Dieu. Dans une fratrie, il y a certes un frère aîné ou un petit frère, une sœur aînée ou une petite sœur, mais on n'est pas supérieurs les uns aux autres. Il n'y a pas de parents et d'enfants. On est tous égaux devant le Seigneur. L'amour fraternel se vit non pas de manière hiérarchique, où il y a un inférieur et un supérieur, mais entre pairs, de façon adulte. Alors, en quoi consiste cet amour fraternel? J'ai déjà parlé de ce mot persévérer, continuer. Mais je pense que être frère et sœur, c'est aussi être là les uns pour les autres. Mais être là dans la durée, pour ceux et celles avec qui on est liés, par des liens spirituels, de la marche ensemble dans les pas du Christ. Après, le verset 2 peut se lire comme une prolongation du verset 1er, un appel à cultiver les relations fraternelles en exerçant l'hospitalité envers nos frères et sœurs dans la foi. Dans l'église où j'ai grandi, et dans beaucoup d'autres églises où je suis passée depuis, c'était pratiquement de rigueur d'inviter quelqu'un d'autre de l'église ou une autre famille de l'église le dimanche midi. Les dimanches où on n'était pas soi-même invité à manger dans une autre famille. Là, dans cette église, j'apprends que vous avez l'habitude de manger ensemble le dernier dimanche de chaque mois. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose, je trouve, mais qui, dans beaucoup d'églises, a été mis à mal par la pandémie de COVID. Parce qu'on a appris à avoir peur des uns des autres, à justement ne pas manger les uns avec les autres, de peur de transmettre la maladie. Mais c'est bien aussi qu'on réapprenne à faire cela, à accepter les uns des autres, à passer du temps les uns avec les autres, et manger ensemble, c'est une bonne façon de pouvoir se parler les uns aux autres. Cependant, la deuxième moitié de ce verset ouvre des perspectives beaucoup plus vastes et peut-être nous faire sortir de notre zone de confort. Il est dit au verset 2, « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns, à leur insu, ont logé des anges. » Là, vous comprendrez pourquoi j'ai choisi de lire les premiers versets du chapitre 18 du livre de la Genèse. Nous avons lu un peu de l'histoire d'Abraham qui a accueilli trois inconnus au moment de l'annonce de la naissance à venir de son fils Isaac. Et là, il ne s'agit pas simplement d'un repas entre amis, entre frères et sœurs d'une même église, des gens qui s'entendent bien et qui apprécient la compagnie les uns des autres. Si nous regardons de plus près le mot grec traduit par « hospitalité » dans ce verset 2, on voit qu'il s'agit de « philoxénia ». La première partie du mot « philo », On peut comprendre, parce qu'on a des mots en français, souvent en français, on l'utilise en suffixe. Par exemple, si je vous dis cinéphile, un cinéphile, c'est quelqu'un qui aime bien les films, qui aime aller au cinéma. Un bibliophile, c'est quelqu'un qui aime les livres. Un francophile, c'est quelqu'un qui aime les Français ou la langue française. La deuxième partie, xénia, est apparentée au mot qui veut dire étranger, celui qui est autre, celui qui est différent, peut-être. C'est le mot en français qui a donné en français le mot xénophobie. Xéno, étranger. La xénophobie, au fait, c'est l'opposé de la xénophilie. La xénophobie, c'est la peur ou la haine de celui qui est différent. L'hostilité, selon le dictionnaire Robert, l'hostilité à ce qui est étranger. Et donc, littéralement, l'hospitalité dont parle ce verset, c'est bien plus qu'un repas partagé avec des gens qu'on aime. C'est tout le contraire de la xénophobie. C'est l'accueil de celui ou de celle qui est étranger, de celui ou de celle qui est différent, de celui ou de celle qui m'est inconnu. Et c'est ce que nous voyons dans le repas offert par Abraham à ses visiteurs qui passent chez lui à l'improviste. S'inviter à manger entre chrétiens, c'est bien. Il faudrait qu'on réapprenne à le faire dans les mois et les années post-Covid. Mais en plus d'aimer, d'accueillir ce qui nous ressemble, est-ce que nous sommes prêts, est-ce que moi je suis prête à accueillir celui ou celle que nous percevons comme étant totalement différent de nous? Vous savez ce que Jésus dit à ce sujet dans le sermon sur la montagne. Il dit, en effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers aussi n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Ça se trouve dans Matthieu chapitre 5, les versets 46 et 47. Ce qui nous amène au verset 3 et aux prisonniers. Et là, on pourrait inclure pas seulement les personnes détenues, les personnes qui sont en prison pour, à cause de quelque chose qu'ils ont fait contre la loi, mais aussi à toutes les personnes qui sont privées de la liberté. Vendredi, j'étais dans une réunion à Paris avec tous les aumôniers régionaux et nous avions la visite du secrétaire général du contrôleur des lieux de privation de liberté. Et ce contrôleur de privation contrôleur des lieux de privation de liberté s'occupe de tous les lieux privatifs de liberté en France, quels qu'ils soient. Ce n'est pas seulement les prisons, c'est aussi les centres de rétention administratifs. C'est aussi les unités fermées dans les hôpitaux psychiatriques. Il y a des personnes qui sont privées de la liberté, qu'on ignore, qu'on oublie. Pour la plupart d'entre nous, les personnes privées de liberté sont une catégorie de personnes autres par excellence. Ce sont des personnes tenues à l'écart, mises au-delà des confins de la société et en quelque sorte désignées comme bouc émissaire, portant tous les maux de la société. La prison incarne l'idée qu'on peut tenir à l'écart tout ce qui est xéno, tout ce qui est autre, tout ce qui est étranger, bref, tout ce qui n'est pas comme nous, tout ce qui ne correspond pas à ce que nous aimerions voir dans la société. et on se dit que là-bas, ce sont les méchants, ou les malades, ou autres, et on les laisse aux oubliettes. Et la contrepartie de cela, c'est que par le même raisonnement, on se dit que nous qui sommes ici, nous sommes forcément des gens bien, parce que nous ne sommes pas comme eux là-bas. Je pense que c'est cette impulsion ou cette invitation à aller vers l'autre qui m'a conduit sur le chemin de l'aumônerie des prisons. Je pourrais vous raconter beaucoup d'histoires, j'en raconterai sûrement un peu si j'ai le temps, et sinon pendant le repas je pourrais en raconter d'autres. Mais je voudrais commencer simplement en vous parlant de ce qui s'est passé la toute première fois que je suis entrée dans une prison. C'était la prison des femmes à Rennes. Je suis allée pour un culte, j'étais invitée par l'aumônier de l'époque, avant que je ne le sois. Et une fois par mois, elle invitait quelques personnes pour venir avec l'animation des chants lors du culte. Et elle m'avait invitée à participer à ce groupe. Et je me suis retrouvée dans la salle de l'aumônerie protestante à la prison des femmes à Rennes, avec quelques personnes de l'extérieur, des chrétiens, surtout des chrétiennes, mais un chrétien, c'est lui qui joue la guitare, des chrétiens de plusieurs églises de la ville de Rennes, et puis un certain nombre de personnes détenues. Moi, je ne connaissais personne dans la salle, sauf Isabelle, qui m'avait invitée. Nous étions assis en rond et je me suis retrouvée en train de regarder les frères, le frère et les sœurs, surtout les sœurs, et je me suis rendu compte que je ne savais pas, que j'étais même incapable de dire qui était personne détenue et qui était visiteur. Les personnes détenues avait été condamnée à une peine de prison parce qu'elle avait commis un acte qui était condamnable par la loi, mais dans le fond, elle n'était pas si différente de moi que ça. Cela m'a rappelé la question posée à Jésus par un docteur de la loi. Un jour, cet homme vient demander à Jésus « Qui est mon prochain ?» Moi, j'avais peut-être une représentation un peu exotique de ce que c'était une personne détenue. Mais là, j'ai découvert qu'un prisonnier, c'était quelqu'un exactement comme moi. Au fond, un être humain avec un parcours de vie différent, certes, de la mienne, mais pas si différent que ça, dans le fond. Nous ne sommes pas tous appelé à connaître le milieu carcéral, mais chacun de nous peut être confronté d'une manière ou d'une autre à l'univers des autres, surtout dans nos représentations que nous avons des personnes qui sont autres. Et ce verset 3 dans Hébreux chapitre 13 fait apparaître un ingrédient clé dans l'amour fraternel et dans l'accueil de l'autre. C'est la notion d'empathie. L'auteur dit « Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez en prison avec eux et de ceux qui sont maltraités comme étant vous aussi dans un corps. » On nous invite à nous mettre à la place de l'autre et à nous associer à son mal-être. Et de le faire non pas de manière condescendante, mais avec une certaine humilité. Il dit, vous avez, vous aussi, un corps exposé à la souffrance. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez, vous aussi, en prison avec eux. Personne ne veut souffrir, mais c'est un fait que l'humilité induite par la souffrance personnelle peut nous aider à exprimer de l'empathie. Et je me suis dit que, par rapport aux prisons, nos divers épisodes, enfin, maintenant ça commence à être un peu lointain, mais je pense que vous vous en souvenez de comment c'était il y a 3 ans, où par 2 fois nous avons été confinés, où on n'avait pas le droit de sortir, sauf 1 heure par jour avec une attestation nous donnant droit de sortir. Donc on a pu sentir un peu comment c'est de ne pas pouvoir faire ce dont on a envie de faire au moment où on a envie de le faire, de ne pas pouvoir voir les personnes qu'on a envie de voir, bien que nous, on pouvait prendre le téléphone pour les appeler. Mais vous serez d'accord avec moi que ce n'est pas pareil d'être au téléphone ou sur Zoom avec quelqu'un que d'être physiquement présent avec la personne. Ça nous donne une idée de comment c'est d'être incarcéré, de ne pas pouvoir disposer de sa liberté d'aller faire ce qu'on a envie de faire. Et puis, nos différents couvre-feux, qui sont un peu plus récents, même à cette époque de l'année dernière encore, on devait être rentré, je pense, si mes souvenirs sont bons, pour 18 heures le soir. Et on devait rester à la maison jusqu'à 7 heures le lendemain matin. Ça nous rappelle, ou ça peut nous faire penser comment c'est pour les personnes qui sont libérées avec un bracelet à la cheville, qui doivent être rentrées pour telle heure, qui ne peuvent pas non plus faire tout ce qu'ils veulent. Ce n'est qu'une toute petite dose de ce qu'un détenu vit au quotidien, mais cela nous aide à penser à ces personnes, à nous souvenir de ces personnes, comme si nous étions prisonniers avec eux. Cela prend plus de sens pour nous, puisqu'il y a du ressenti. L'empathie est une disposition clé à cultiver pour nous aider à vivre l'amour fraternel, pour nous mettre à la place de l'autre, tout en restant conscient des différences qui nous séparent et de nos places respectives, pour que nous puissions construire des relations qui nous construisent au lieu de nous nuire. Je reviens juste un instant à l'accueil par Abraham de ces anges incognito et le fait que cette rencontre était empreinte de cette empathie. Je ne prendrai pas tout le temps pour faire tout le commentaire, mais je vous invite, si vous en avez envie chez vous, à relire ce texte et de voir à quel point Abraham y ressentait ce dont ses visiteurs avaient besoin, que ce soit de l'eau à boire, parce qu'ils se rendaient compte qu'ils avaient soif, que ce soit les instructions qu'il donne à son épouse Sarah pour préparer, non pas un petit pain pour les nourrir, mais 3 mesures de farine, ça fait 25 kilos de farine. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point il se mettait dans la peau de ces personnes qui avaient faim et qui voulaient manger. Et puis il est en train de dire « vite, vite, vite !» Il court pour apprêter la viande parce qu'il veut faire ce qu'il faut pour que ces personnes aient ce dont elles ont besoin pour alléger leur souffrance. Le verset nous appelle à nous souvenir des prisonniers. Il n'est pas dit qu'il faut se souvenir seulement des prisonniers chrétiens. Mais il est dit de se souvenir de ceux qui sont en prison, de ceux qui sont innocents, de ceux qui sont coupables. L'importance du souvenir dans la Bible, on peut s'en rendre compte à la lecture des psaumes qui nous invite sans cesse à nous souvenir de ce que le Seigneur a fait pour nous. Dans le Nouveau Testament, on a le repas de la Sainte Cène qui nous invite à nous souvenir de ce que le Christ a fait pour nous, de sa mort et de sa résurrection, et aussi du fait qu'il promet qu'il revient pour que nous soyons pour toujours avec lui. Et avec cette même idée, on nous appelle à nous souvenir des personnes qui sont prisonnières. Alors, je ne sais pas si j'ai utilisé 35 minutes. J'ai encore 5 minutes, c'est ce que je pensais, mais David, il me fait des signes, donc je... Je vais terminer avec peut-être un petit mot de témoignage, mais qui après, quand on aura prié, j'aurai le temps de présenter l'aumônerie plus dans sa globalité. Donc, ce dernier mot, c'est pour dire que les moments qui m'ont le plus marqué dans mon ministère d'aumônier, ce sont les moments où j'ai pu vivre cette empathie et où j'ai pu prier avec cette empathie. Pas forcément que je cherchais à le faire dans le moment, mais par la suite, je me suis rendu compte que c'est ce qui se passait. Je pense à quelque chose qui s'est passé très tôt, dans la première année où j'étais aumônier, où je rendais visite à une femme étrangère. Donc elle était à la fois personne détenue et c'était une femme étrangère qui était incarcérée donc à la prison de Rennes et elle était incarcérée avec son bébé. À l'époque, à la prison de Rennes, il y avait un quartier nurserie où quelques femmes pouvaient avoir leur bébé avec elles jusqu'à l'âge de 18 mois. Et donc, cette femme était incarcérée là. L'avantage, c'est qu'elle pouvait avoir son bébé avec elle. Mais il y avait beaucoup d'inconvénients. Ça veut dire que quelqu'un qui a son bébé avec elle ne peut pas travailler en détention. Donc, pas de revenus. Donc, une indigence amplifiée, parce qu'on ne peut rien acheter pour améliorer un peu le quotidien des repas qui sont servis par la prison. Elle ne pouvait pas non plus venir au culte, parce qu'elle ne pouvait pas laisser son enfant, et elle n'avait pas le droit non plus de l'emmener avec elle. Donc, et elle ne pouvait avoir aucun contact avec sa famille. Elle n'avait pas le droit de téléphoner, c'était une femme prévenue. Et donc, elle était complètement isolée. Et puis, ce qui rendait sa situation encore pire, c'est que dans la nurserie, il y avait deux autres femmes à l'époque, elles françaises. Et ces deux autres femmes lui interdisaient de sortir de sa cellule avec son bébé, sous prétexte que son bébé faisait trop de bruit. Donc, elle était non seulement incarcérée dans la prison, elle était incarcérée encore plus dans sa cellule et elle avait aucun contact avec l'extérieur. Moi, j'allais la voir une fois par semaine, mais j'ai vu que sa situation s'empirait. Et je me souviens, je suis allée la voir, c'était le vendredi saint, juste avant Pâques, et elle était arrivée à une extrémité où vraiment, moi, j'avais peur pour elle qu'elle fasse quelque chose d'irréparable. Je savais qu'elle ne pouvait pas venir au culte de Pâques, mais j'ai partagé avec elle un peu ce quoi j'allais prêcher pendant le culte de Pâques, en parlant de l'espoir de la résurrection et de la vie que Jésus offre, tout en sachant que dans sa situation, ça paraissait désespéré. Et puis, je lui ai demandé si je pouvais prier pour elle. Elle a bien sûr dit oui. Et mais je ne savais même pas quoi prier. Sa situation était tellement difficile. Et j'ai simplement prié, Seigneur, montre-lui que tu ne l'as pas oublié. Je suis partie. Et pendant toute la semaine, je ne savais pas comment elle allait. Je suis retournée le vendredi suivant et dès que je suis rentrée dans sa cellule, elle m'a accueillie avec un énorme sourire. Et là, elle me dit, tu ne peux pas deviner ce que le Seigneur a fait pour moi. Et elle me raconte que le vendredi d'avant, j'étais à peine partie, que la surveillante est venue à sa cellule avec deux grands sacs de nourriture. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait deux autres femmes incarcérées dans la maison d'arrêt, deux autres Africaines, mais pas du même pays qu'elles, donc aussi étrangères pour elles, qui, elles, cette semaine-là, avaient été classées au travail. Ça veut dire qu'elles allaient, elles commençaient à travailler, mais elles allaient recevoir leur salaire qu'en fin de mois. Mais ces deux femmes-là, elles étaient tellement reconnaissantes au Seigneur, envers le Seigneur, parce qu'elles avaient été classées au travail, qu'elles avaient eu envie d'offrir les prémices de leur salaire. Et donc, elles ont demandé la permission au chef de détention de pouvoir continuer, c'est-à-dire acheter des provisions et de les donner à cette femme. Et même la surveillante, elle était émue en disant qu'elle n'avait jamais vu un tel acte de solidarité entre détenus qui ne se connaissaient pas, parce qu'elles ne se fréquentaient pas. C'est simplement que ces femmes avaient entendu parler qu'il y avait une femme là avec son bébé qui n'avait rien. Moi, ça m'a complètement bouleversée en me disant que quand on prie, on ne sait pas comment le Seigneur peut répondre à nos prières. Moi, j'ai prié, Seigneur, montre-lui que tu ne l'as pas oublié. Mais il a répondu à cette prière bien au-delà de ce que je pouvais imaginer. Et donc, je voulais vous laisser avec cet encouragement. Vous avez une prison qui est, je ne sais pas dans quelle direction, mais c'est là derrière, à Plumeur. Ce n'est pas loin, hein? c'est la commune voisine. Là, vous ne savez pas ce que le Seigneur peut faire si vous priez pour les personnes détenues dans cette prison. Voilà. Est-ce que je peux prier? Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci parce que tu es ce Dieu qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous imaginons ou pensons. Et Seigneur, je veux te prier pour mes frères et sœurs ici. Seigneur, que tu ouvres leur cœur, que tu ouvres aussi le mien, afin que nous puissions prier en souvenant de nos frères et sœurs qui sont prisonniers, de tout, en nous souvenant des personnes qui sont privées de la liberté. Et Seigneur, nous voulons te demander, oui, de nous émerveiller, de nous étonner par ce que tu feras en réponse à nos prières. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen.